Chapitre 1er. La vision de Christ. Versets 1 à 8. Introduction. Citation de l'Écriture. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt, et il l'a signifiée en l'envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ de toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept assemblées qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Fin de citation. Verset 1. Les premiers versets soulignent l'immense importance de cette partie de la parole de Dieu, en nous rappelant qu'il s'agit d'une révélation de Dieu à Jésus-Christ, considéré comme le Fils de l'homme, et pour ses serviteurs, concernant les choses qui doivent arriver bientôt. Celui par qui, comme homme humble sur la terre, Dieu a été révélé, est celui par qui, comme homme glorifié, les choses à venir sont maintenant révélées. Quelle bénédiction de réaliser que, concernant l'avenir, nous ne sommes pas livrés aux vaines spéculations contradictoires des hommes qui cherchent à tirer des conclusions de l'histoire passée ou d'événements présents quant au cours futur du monde. Le voile est levé par celui qui, non seulement révèle les choses qui doivent arriver bientôt, avec omniscience, mais qui peut accomplir chaque événement annoncé avec omnipotence. De plus, ces événements futurs sont révélés aux croyants en tant que serviteurs. Cette connaissance nous permettra de servir avec intelligence selon les grands desseins que Dieu est en train de réaliser, nous sensibilisera à être séparés d'un monde marqué par la violence et la corruption et sur le point d'être jugé, et par-dessus tout, nous encouragera dans notre service en saisissant la gloire à laquelle il conduit lorsque nous, serviteurs de l'agneau, le verrons enfin face à face et le servirons dans les lieux célestes. Chapitre 22, versets 3 et 4. Puis nous voyons que ces choses étaient en général révélées à l'apôtre Jean par le moyen d'un ange et non par une communication directe, comme lorsque le Seigneur était présent avec ses disciples. En outre, elles n'étaient pas seulement communiquées, mais aussi signifiées, un mot qui inclut et l'instruction par des visions et la communication par des mots. Verset 2. Cette révélation dont Jean rend témoignage nous parvient avec toute l'autorité de la parole de Dieu dont Jésus-Christ rend témoignage par des paroles et des visions. C'est pourquoi à la fin de l'Apocalypse, Jean peut dire « Moi, Jean, j'ai vu ces choses et je les ai entendues. » Chapitre 22, verset 8. Verset 3. Une bénédiction spéciale est prononcée sur celui qui lit et sur ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et observent les choses qui y sont écrites. Ce livre se termine comme il s'ouvre, en prononçant à nouveau la bénédiction sur celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Chapitre 22, verset 7. Nous sommes donc mis en garde de ne pas négliger l'Apocalypse comme si son contenu ne satisfaisait qu'une vaine curiosité sans aucune incidence sur notre vie chrétienne pratique. Nous sommes exhortés à tenir compte des vérités qui y sont exposées et à les chérir. C'est ainsi que nous resterons paisibles au milieu de l'apostasie croissante de la chrétienté et de la violence et de la corruption croissante qui résultent de la faillite du gouvernement entre les mains des hommes. Versets 4 et 5. Suit la salutation de Jean. En s'adressant aux sept églises d'Asie, chaque personne divine est présentée en accord avec le caractère de l'Apocalypse. Dieu est présenté comme le Dieu éternel. L'Esprit est présenté symboliquement dans la plénitude de sa puissance devant le trône d'où le monde est gouverné. Le Seigneur Jésus est vu comme celui qui est le témoin fidèle, comme l'a prouvé sa vie parfaite sur la terre dans le passé, qui est prééminent, comme ressuscité d'entre les morts, en le voyant dans sa position actuelle, couronné de gloire et d'honneur, et qui est le prince de tous les rois de la terre, ce qui sera manifesté dans un proche avenir. Versets 5 et 6. L'Église qui reçoit la révélation répond aussitôt à cette salutation. Celui qui est le témoin fidèle de Dieu, qui a brisé le pouvoir de la mort et qui règnera sur tous les rois de la terre, est celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés. Au cours de la prophétie, nous avons une vision solennelle de Christ comme juge. Nous l'entendons juger l'Église professante, nous voyons la tribulation que traversera Israël et le jugement qui tombera sur les nations. Enfin, passe devant nous le jugement des morts au grand trône blanc. Mais devant ces jugements à venir, les croyants ont la bienheureuse assurance que celui qui juge les a placés au-delà de tout jugement, en ayant porté leur jugement et les ayant lavés de leurs péchés. De plus, nous, croyants, sommes assurés d'être à l'abri du jugement, mais aussi de partager le royaume glorieux de Christ, car nous avons été faits un royaume pour régner, et des sacrificateurs pour louer Dieu. La délivrance du jugement et les bénédictions dont nous jouirons alors ne viennent d'aucun de nos mérites. Nous lui devons tout. Alors, les croyants adressent avec une grande joie toute louange à Christ et disent « À lui la gloire et la force, au siècle des siècles. Amen. » Le gouvernement du monde, confié aux gentils, s'est effondré dès le début quand le premier chef des nations a dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Daniel 4, verset 30. Depuis ce jour, des hommes se sont levés les uns après les autres, cherchant à dominer les nations pour leur propre gloire, pour trouver finalement que, comme le premier chef des gentils, bien qu'ils aient été utilisés par Dieu dans son gouvernement envers les hommes, et aient ainsi prospéré un certain temps, ils ont été défaits de façon humiliante. À la fin, il sera manifesté que toute la gloire sera donnée à celui contre lequel les rois de la terre se sont dressés, et sa force sera au siècle des siècles. Amen. Verset 7. Suit une déclaration qui résume le grand sujet de l'Apocalypse, le jugement des Juifs et des gentils, pour que la terre soit prête pour le règne glorieux de Christ. Quand il viendra pour juger, ce ne sera pas comme pour l'enlèvement de l'Église, où il ne sera vu que de ceux qui seront enlevés pour le rencontrer dans les airs. Sa venue sera publique. Tout œil le verra. Croyants et incroyants, juifs et gentils, sauront qu'il est venu et que cette venue signifiera le jugement de tous les méchants. C'est pourquoi il est dit « Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Verset 8. La venue de Christ en tant que juge pour juger tout le mal et introduire son royaume établira la grande vérité que Dieu est le premier et le dernier, l'éternel, le tout-puissant. Nous voyons donc par ces versets introductifs que malgré toute la faillite de l'homme quant à sa responsabilité, qu'il soit juif, gentil ou de l'Église, avec ce qui en résulte en rébellion contre Dieu, violence et corruption qui remplissent le monde, Dieu est sur le trône, l'Esprit est devant le trône, et Christ vient juger le mal et établir sa gloire et sa force au siècle des siècles. De plus, les croyants sont présentés comme séparés d'un monde sous le jugement par le sang qui les a lavés de leurs péchés et les a rendus aptes à participer à la gloire et aux bénédictions du royaume de Christ à venir. Voyant et attendant de telles choses, nous pouvons sûrement dire avec l'apôtre Pierre : quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété ? 2 Pierre 3, verset 11. Cette introduction nous prépare à la première division de l'Apocalypse qui occupe les autres versets de ce premier chapitre. Dans cette partie se trouve la mission du Seigneur confiée directement à Jean et la présentation de lui-même comme le Fils de l'homme à qui tout le jugement est donné. Versets 9 à 18. La vision du Fils de l'homme. Citation de l'Écriture. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus en esprit dans la journée dominicale et j'ouïs derrière moi une grande voix comme d'une trompette disant « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept assemblées, à Éphèse et à Smyrne et à Pergame et à Thyatire et à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. » Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis sept lampes d'or, et au milieu des sept lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à de l'airain brillant, comme embrasé dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux, et il avait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage comme le soleil quand il luit dans sa force. Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il mit sa droite sur moi, disant « Ne crains point, moi je suis le premier et le dernier et le vivant, et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. » Fin de citation. Verset 9. Jean parle de lui-même comme d'un frère qui a part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus. Il se considère comme membre, non pas des royaumes de ce monde avec leur gloire passagère, mais du royaume de Christ à venir, qu'en tant que croyant, nous devons attendre avec patience. En outre, son témoignage pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ, qui avertit les hommes du jugement à venir et du renversement des royaumes de ce monde, l'a amené à subir la tribulation, ce qui l'a conduit à être banni sur l'île de Patmos. Ainsi, en Jean, nous voyons la vraie position de l'Église qui traverse un monde qui a rejeté Christ et attend que ses ennemis soient mis comme son marchepied. Versets 10 et 11. Comme pour beaucoup des saints persécutés pour l'amour de Christ, Jean découvre que ses souffrances deviennent l'occasion d'un encouragement spécial de la part du Seigneur. Ainsi, le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine, dans la puissance de l'Esprit, Jean a des visions et des révélations spéciales qu'il doit écrire et envoyer à cette église représentative. Versets 12 à 16. Se tournant pour voir celui qui parle, Jean voit, en vision, le Fils de l'homme sous les traits de l'Ancien des Jours décrit par Daniel. Daniel 7, versets 9 à 13. Ce n'est plus le Fils de l'homme dans l'humiliation, méprisé et rejeté des hommes, mais le Fils de l'homme en gloire, sur le point d'agir en juge. Ce n'est plus avec des vêtements mis de côté et saints pour le service des saints, mais avec une robe de magistrat. Les affections sont retenues par la justice, exprimée par la ceinture d'or. L'intense sainteté de ses jugements peut être exprimée par sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Le caractère perçant de ses jugements nous est sûrement présenté par ses yeux comme une flamme de feu auquel rien n'est caché. Ses pieds, comme de l'airain brillant, comme embrasés dans une fournaise, peuvent évoquer une marche infiniment sainte qui résiste à l'épreuve de Dieu qui est comme un feu consumant. Sa voix, comme le bruit de grandes eaux, couvre toute voie opposée. Dans sa main, il tient sept étoiles dont nous apprenons, un peu plus loin, qu'elle présente les représentants des sept assemblées, montrant que tout est en son pouvoir. De sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants qui parle de la parole atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Son visage est comme le soleil quand il luit dans sa force, ce qui parle de la lumière qui révèle les ténèbres de ce monde. Versets 17 et 18. N'est-il pas évident que chaque symbole montre le Seigneur sous le caractère du juge? Pour Jean, qui avait connu le Seigneur dans sa grâce et son amour infini, c'était stupéfiant. C'est pourquoi le disciple qui s'était autrefois assis en présence du Seigneur, la tête penchée sur la poitrine de Jésus, tombe à ses pieds comme mort maintenant. Néanmoins, pour lui qui est frère et à part à la tribulation, et au royaume et à la patience en Jésus, il n'y a rien à craindre. Celui qui est sur le point de juger pose sa main sur le croyant et dit « Ne crains pas ». Le Seigneur dit immédiatement pourquoi le croyant ne doit pas avoir peur en présence du juge. La gloire de sa personne et la grandeur de son œuvre ôtent notre peur. Il est en personne le premier et le dernier et le vivant. Il est celui qui existe éternellement. Néanmoins, il devint chair et est mort, et est ressuscité pour vivre éternellement. Pour l'incrédule, il est le Fils de l'homme à qui est remis tout le jugement. Pour le croyant, il est aussi le Fils de l'homme qui a brisé le pouvoir de la mort et du tombeau. Versets 19 et 20. Les messages aux assemblées. Citation de l'Écriture. Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite et les sept lampes d'or, les sept étoiles sont les anges des sept assemblées, et les sept lampes sont sept assemblées. Fin de citation. Verset 19. Ayant ôté toute crainte à son serviteur, le Seigneur indique les trois principales divisions de l'Apocalypse. Premièrement, les choses que Jean avait vues. La gloire de Jésus marchant au milieu des sept assemblées, les versets qu'on vient de lire. Deuxièmement, les choses qui sont. La période actuelle de l'Église, représentée par sept assemblées types, chapitres 2 et 3. Troisièmement, les choses qui vont arriver après celles-ci, les événements qui arriveront dès que l'Église sera retirée de la terre pour être avec Christ dans la gloire, chapitres 4 à 22. Verset 20. Avant d'aborder la deuxième division de l'Apocalypse, le Seigneur explique le mystère des sept étoiles et des sept lampes d'or. Les étoiles sont des lumières célestes subordonnées. Comme figure, elles semblent signifier ceux qui, par don ou par expérience, sont capables, sous la direction du Seigneur, de présenter la vérité céleste au peuple de Dieu. De plus, il est dit que les étoiles sont les anges des sept assemblées. Dans l'Écriture, le terme « ange » est parfois utilisé pour signifier « représentation » et n'implique pas toujours un être angélique. Dans ce passage, l'ange semblerait indiquer les représentants responsables des assemblées devant Christ. Il a été dit que nous pouvons y voir un ange employé comme un moyen de communication entre le Seigneur et son serviteur Jean, mais il serait difficile de penser que Jean soit employé par le Seigneur pour écrire une lettre de Christ à un être angélique. Enfin, nous apprenons que les lampes symbolisent les assemblées dans leur responsabilité d'être une lumière pour Christ dans le monde d'où il est absent.